des cendres oxy ratatinées, comme l'auraient fait les chers aînés. Faire que sa vie soit un roman, dès le lycée prendre un amant, et pour cela tuer père et mère, comme l'aurait fait Violette Nozière. Jouer du missel et de la fesse, et bousiller après qu'on fesse une demi-douzaine de connards, comme l'aurait fait Marie Bénard. Être la chienne des océans, ferrailler en Provencéan, que la flibus n'a pas une ride, comme l'aurait fait Miss Murray Mead. Bourgeoises exsangues, leur arracher les yeux, la langue, pour que leur passe le goût du vin, comme l'auraient fait les sœurs Papin. Rugir après sans pouvoir parler, délaisser Marx pour traiter les patrons à la Kalachnikov, comme l'auraient fait Ulrich Meinhof. Se baigner à la lueur des cierges dans le sang de 100 000 vierges, animé sans teint flétri, comme l'aurait fait Lavatory. Chérir un fédé chimérique, tenir en joue toute l'Amérique, et crever du plomb plein le cœur, comme l'aurait fait Bonnie Parker. Empoisonner la cour de France et vomir sur un peuple en transe, au-dessus des flammes liées, comme l'aurait fait la Brinvilliers. Toucher terre le moins lourdin qui censure ni fiole ni flin. La télécommande en fusion zappée au final sacrilège devant l'écran muet qui s'enneige. Toute palpitante d'illusion se remémorait tant d'histoires, dressée d'urgence sa liste noire pour du gris mettre au rendez-vous.
Vous êtes sur Rémi Ménage, Onde Femme 93.8 MHz. Nous parlons de la campagne contre la violence faite aux femmes, campagne qui vient d'être lancée en Suisse, dans toute la Suisse, par la conférence suisse des délégués à l'égalité entre femmes et hommes. Alors, on écoutait juste maintenant Juliette qui nous racontait les tueuses. J'imagine que ce n'est pas le premier conseil qu'on donnerait aux femmes qui viennent et qui téléphoneront, de dire ben, allez-y, tuez votre mari.
Non, c'est pas vraiment une très bonne idée. Non, ça résout pas trop les problèmes. Par contre, j'avais juste une petite chose à ajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, au niveau de la, on a parlé tout à l'heure de violence psychologique, et c'est clair qu'il y a un véritable travail de sable qui est effectué par l'homme sur la femme à ce niveau-là, qui est parfois plus destructeur que les coups, hein, que la violence physique, parce que ça détruit complètement la femme à l'intérieur. Elle se sent effectivement complètement nulle, elle a l'impression qu'elle vaut rien, et puis qu'elle fait tout faux, toujours, quoi. Ce que j'aimerais leur dire, c'est que si elles avaient l'occasion d'exercer une activité à l'extérieur, de rencontrer des gens, ça leur permettrait de prendre conscience, je dirais, de prendre confiance en elles-mêmes, et de voir qu'elles sont capables, qu'elles sont tout à fait capables, contrairement à ce qu'elles entendent, ce qu'elles peuvent entendre parfois à longueur de journée. Et puis petit à petit, de se reconstruire comme ça, en se ressourçant à l'extérieur. Mais c'est bon, c'est quelque chose de très difficile.
Alors, il y a aussi d'autres conseils qu'on pourrait donner dans le cadre institutionnel. Par exemple, en quoi les lois ou simplement les institutions existantes pourraient déjà utiliser les lois qui existent pour améliorer la situation ? Alors, on a parlé, par exemple, avant, tu parlais, les femmes peuvent partir. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, une réflexion sur les femmes peuvent rester, finalement, dans leur logement, et ce serait peut-être à l'homme violent de partir?
Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, disons, on aborde aussi le rôle de la police, hein, parce que l'homme ne va pas partir de lui-même. Et ce qu'il faudrait effectivement, c'est qu'il y ait des directives pour que la police emmène l'homme dans les cas de violence. Et je voudrais signaler qu'à Zurich, il y a eu une campagne il y a une année contre la violence conjugale, et que suite à cette campagne, il y a eu tout un travail fait avec la police, notamment, pour essayer de faire passer des directives beaucoup plus contraignantes, c'est-à-dire que les policiers et policières de la base sachent que s'il y a cas de violence conjugale, il faut arrêter le mari pour 24 heures et l'emmener du domicile. Et bon, ça se fait à Zurich. Il y a aussi un essai qui va probablement se faire à Bâle, dans le même sens. Et tous ces essais sont inspirés de ce qui se fait aux États-Unis. On a pris conscience dans les années 80 aux États-Unis que la seule façon de résoudre le problème et de protéger véritablement les femmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles restent dans un état de non-protection et de danger. Donc la seule façon de protéger les femmes, c'est de renforcer le rôle de la police et de la justice. Et là, il y a un exemple très célèbre, une expérience qui a été faite dans la ville de Duluth, aux États-Unis, où systématiquement la police arrête l'homme violent, où il est condamné, par exemple, à suivre, à faire partie de groupes d'hommes où il va prendre conscience de sa violence. Et il a un sursis. Il n'est pas tout de suite condamné à la prison. Il a un sursis, par exemple, s'il ne récidive pas dans tel laps de temps. Et s'il récidive, alors à ce moment-là, il est emprisonné pour plusieurs mois. Et on s'est rendu compte que les taux de récidive ont chuté énormément suite à cette expérimentation. Bon, il faut dire que c'est un peu plus complexe que ce que je vous explique en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a aussi un soutien qui est apporté à la femme. Il y a une assistante sociale qui prend contact avec elle, qui lui explique tout le processus juridique, si elle veut déposer une plainte, qui la soutient, qui l'aide. Et du côté des hommes aussi, il y a des groupes qui aident les hommes violents à prendre conscience de leurs problèmes. Et tout cela se fait en réseau. C'est tout un travail très concerté de toutes les institutions de la population qui travaillent en réseau de façon concertée pour essayer de stopper la violence. Et les résultats semblent avoir été extrêmement positifs.
Ce qui semble assez intéressant dans une telle démarche, c'est qu'à la fois, on reconnaît que la violence contre les femmes dans le cadre du couple est un délit, puisqu'on arrête. Donc l'homme doit être, enfin celui qui a commis la violence, en l'occurrence l'homme, doit être puni. Et puis, en même temps, on reconnaît l'idée que c'est tout un système de société qui ne fonctionne pas bien. Donc il faut aider les uns et les autres à avancer dans cette direction. Parce qu'on peut imaginer que l'arrestation seule ne suffirait pas. J'ai l'impression qu'on se retrouve beaucoup dans l'histoire des violences conjugales, dans les mêmes problématiques qu'on avait quand il y a une dizaine d'années, on parlait du viol. Hein, parce qu'on disait, mais les femmes disaient, il faut punir les violeurs. Et puis beaucoup disaient, mais ça ne changera rien de les mettre dans les prisons. Donc il y avait à la fois reconnaître le délit grave et puis en même temps faire autre chose que simplement mettre entre quatre murs.
Alors tout à fait, je crois que la prise de conscience qui s'est faite aux États-Unis notamment, c'est que la société n'assumait pas son rôle. Parce que la société a un rôle de tiers par rapport à l'homme violent et à la femme violentée, et de dire non, nous n'acceptons plus cela. La société se montre encore, ou en tout cas dans nos pays, avant que ces réformes n'interviennent, se montrait très tolérante. L'homme savait parfaitement qu'il pouvait frapper sa femme sans encourir de peine, alors qu'il savait aussi parfaitement que s'il agresse quelqu'un dans la rue, eh bien ça va finir au tribunal. Donc là, je crois qu'il y a eu une prise de conscience importante où les responsables de ces programmes se sont dit, ce n'est pas au couple à faire cesser la violence, parce que l'homme ne va pas le faire, et la femme sait faire reposer beaucoup de choses sur elle qui est déjà très fragilisée par la violence. Donc l'idée était, c'est à nous, société, et à ces institutions comme la police, la justice notamment, de faire stopper la violence. Et il faut donc qu'elle soit dotée de pouvoirs qui permettent d'arrêter par exemple l'homme, ou en tout cas d'émettre clairement le message, la violence n'est plus tolérée.
On pourrait aussi imaginer peut-être un changement de loi, par exemple le viol conjugal n'est toujours pas reconnu, je crois, dans
la législation. 1992, oui. Depuis 1992.
Ah bon, alors le viol conjugal est reconnu, est-ce qu'il y a des suites Est-ce qu'il y a eu des procès? Est-ce que ça a eu des conséquences?
Alors, je doute qu'il y a eu énormément de procès, parce qu'il faut voir, c'est toujours le même problème. C'est extrêmement difficile de déposer une plainte contre son conjoint. Il y a des pressions qui sont faites pour que la femme ne le fasse pas. Mais je crois quand même que l'avantage de mettre dans la loi une interdiction, et on pourrait imaginer que pour la violence conjugale, par exemple, on fasse ce qui s'est fait en France, où le fait d'agresser quelqu'un dans le cadre de la famille est une circonstance aggravante par rapport à une agression qui est commise dans la rue, par exemple. Je crois que l'avantage, c'est de montrer clairement un interdit social. La société ne tolère pas. Alors qu'actuellement, il y a une tolérance qui est là.
Moi, le grand avantage que je vois par rapport au modèle dont vient de parler Lucienne, le modèle de Duluth aux États-Unis, c'est que toute cette histoire, finalement, ne se termine pas forcément par la séparation. Puisque tout est mis en œuvre au niveau des médiateurs, que ce soit des spécialistes du domaine, que ce soit la justice. Tout est mis en œuvre, finalement, pour réconcilier l'homme et la femme et pour que l'homme change d'attitude envers sa conjointe. Et puis, c'est une solution qui me paraît finalement la meilleure. Pourquoi ? C'est vraiment regrettable que cette violence aboutisse tout le temps à une rupture du couple.
Bon, peut-être quand même qu'il faut dire que dans un certain nombre de cas, c'est vrai que la meilleure chance à donner au couple, c'est de mettre très vite la limite. Et un certain nombre de couples pourront peut-être continuer, l'homme ayant intériorisé cette limite. Mais il faut aussi se dire, dans un certain nombre de cas, ce ne sera pas non plus possible et que seule la séparation est la solution. Ça, c'est évidemment, c'est pas à nous de décider, c'est au couple de voir ce qui est faisable.
Je vous remercie infiniment toutes les deux de nous avoir donné toutes ces informations, d'avoir abordé ces questions dont on sait qu'elles sont si difficiles à toucher, soit à dire par les femmes victimes de violences, vous l'avez bien expliqué, soit à être reconnues par la société en général. Peut-être, juste avant qu'on aborde très concrètement qu'est-ce qui va être proposé, par exemple, dans le cadre de Genève, dans cette campagne, j'aimerais bien quand même qu'on essaye de donner une réponse, ou du moins de dire ce qu'on ressent, en tout cas vous, Lucienne et Ivana, sur ce qui est sorti aujourd'hui dans certains journaux à propos du lancement de la campagne. Le courrier de Genève, dont on pourrait s'attendre à ce qu'il ait compris un certain nombre de choses, d'habitude il le fait, sous la plume d'ailleurs d'une femme, fait remarquer que « et les hommes battus dans le couple alors ?» et affirme qu'il y aurait 10% des victimes de violences conjugales qui seraient des hommes et que le fait de complètement ignorer ce sujet-là, ce fait-là, dans la campagne qui est lancée à l'heure actuelle, aurait pour conséquence de braquer les hommes face à cette histoire et que, en plus, c'est de ne pas reconnaître, pas chercher à savoir quelles sont les racines du mal, si je arrive. Et puis, alors peut-être commençons par ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pourquoi est-ce que c'est intentionnel que vous n'avez pas parlé des hommes victimes de violences?
Alors, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous faisons une analyse sociopolitique de la situation. C'est-à-dire, nous ne pensons pas que le problème de la violence dans le couple est un problème individuel. Ce n'est pas parce que, si vous voulez, ça ne dépend pas simplement de l'histoire personnelle des deux personnes. C'est bien pour ça que les bureaux de l'égalité sont engagés dans cette histoire. C'est bien parce qu'il y a des facteurs sociaux qui font que les femmes sont agressées, que dans la majorité des cas, et ça personne ne le conteste, parce que quand on dit 10% d'hommes battus, en admettant même que ce chiffre soit vrai, il n'en reste pas moins que 90% des femmes sur 100 cas de violence, 90% des cas sont des femmes. Donc nous partons donc d'une analyse sociopolitique. Ce n'est pas pour rien que ce sont des femmes qui sont violées en ex-Yougoslavie, ce n'est pas pour rien que que la traite des femmes progresse énormément dans le monde. On pourrait continuer comme ça à donner moult exemples des violences qui sont faites aux femmes partout dans le monde. Donc pour nous, la violence conjugale, ce n'est pas quelque chose de privé, d'individuel, ça fait partie de ce problème général des violences qui sont faites aux femmes, et c'est lié à la position inférieure des femmes dans notre société et au modèle de virilité et de féminité qui ont cours. C'est parce qu'il y a toujours l'homme viril doit être fort, grand, etc., et dominant, c'est aussi lié à cela. Donc nous faisons bien une analyse de ce type. C'est pour ça que, si vous voulez, ce n'est pas, je dirais, à la limite notre problème de dénoncer le 10% des cas. Nous sommes des bureaux qui faisons une étude des facteurs sociaux qui sont à l'origine de cela. Et c'est pour ça que nous dénonçons le fait de la violence des hommes contre les femmes, qui est d'ailleurs attestée dans toutes les statistiques. Vous pouvez consulter toutes les chiffres que vous voulez. La violence, c'est toujours une affaire d'hommes. Hein. Dans les condamnations, si vous prenez les statistiques suisses de criminalité, la violence est une affaire d'hommes et très rarement une affaire de femmes.
Donc lorsqu'un psychiatre genevois, parce que c'est comme ça qu'il est cité dans le journal de Genève, s'irrite de la façon dont on avance toujours l'équation femme victime, homme violent, et qu'il trouve qu'elle est bien trop simple et ne correspond pas à la réalité, est-ce qu'on peut poser l'hypothèse que ce monsieur refuse de voir la réalité ?
Écoutez, moi je ne vais pas porter des jugements sur le pourquoi ce psychiatre énonce ce type de vérité. Simplement, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, un psychiatre est amené plutôt à regarder les choses du point de vue du privé, hein, de l'inconscient, de ce qui se passe entre deux personnes, et que ce n'est pas cette analyse-là que je fais, puisque je suis sociologue, et qu'en tant que sociologue, je recherche les racines sociales qui amènent à ce phénomène. Voilà ce que je peux dire.
Il reste quand même à reconnaître que visiblement, le tabou, l'incompréhension face à ce phénomène existe toujours bien, puisque de telles réactions sortent encore, même dans des journaux dont on pourrait s'attendre qu'ils aient bien compris l'enjeu d'une telle campagne. Et donc ça, c'est quand même, ça montre bien l'extrême nécessité, même si il y a bien d'autres choses qui le démontrent,
oui,
mais
de
cette campagne.
Ce que je regrette, c'est qu'on ne reconnaisse pas justement ce problème de la violence. Parce qu'imaginez cette femme dont je vous ai cité le cas que j'ai eu au téléphone ce matin, qui vit 10 ans de violence que les tribunaux ne reconnaissent pas. Alors imaginez un peu la réaction de cette femme quand elle entend dire « mais c'est beaucoup plus complexe en fait ». Ces femmes-là, ça les renforce dans le sentiment que l'entourage ne les comprend absolument pas. Et je crois que ce qui est très important, c'est en fait que la société reconnaisse qu'il y a une violence qui est faite aux femmes. Et c'est ça qu'il faut dire maintenant en priorité, je crois, dans le cadre de cette campagne.
Alors, cette campagne, elle va...
Il y a juste une petite chose que je voulais ajouter par rapport à ma réaction, par rapport à ce que j'ai lu dans la presse. En fait, je n'ai pas du tout été surprise de ces commentaires. Il y a toujours le pendant masculin là-dedans, quand on parle de la violence contre les femmes. Mais et les hommes, bon sang ? Quand on est allé chez l'imprimeur pour aller chercher nos affiches, on a eu affaire avec beaucoup d'hommes pour mettre sur pied des tas d'éléments de cette campagne. Et puis tout le temps, on nous a fait la petite phrase toute gentille avec un grand sourire, et les hommes dans tout ça, et les hommes battus, et les hommes battus. Donc ça ne m'étonne pas du tout que les médias reprennent ça. C'est une forme de questionnement. C'est une façon un peu triste ou nette de louvoyer et de finalement de contourner un phénomène grave par une petite question plutôt amusante sur le plan médiatique. Enfin,
oui. Et puis je crois que Lucienne, tu l'as très bien posé le problème. C'est vrai que ce qui se passe dans deux histoires personnel, c'est quelque chose qui est effectivement complexe et compliqué. Et puis après, il y a le phénomène social qui est d'une autre envergure. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur d'un couple, on peut toujours dire bon, il s'est passé des choses, etc. Mais si on le regarde avec une autre lunette et qu'on voit qu'effectivement 20% des femmes subissent ces violences, c'est plus une affaire entre deux personnes, c'est effectivement une affaire au niveau d'une société tout entière. On le voit en Suisse, mais comme tu l'as dit, Lucienne, on le voit partout dans le monde. Il y a cette même violence qui s'exerce. Donc, effectivement, ça dépasse le cadre et l'histoire personnelle des unes et des autres.
Oui, tout à fait. Je crois que ce qu'on peut aussi dire aussi, c'est que ce type de réflexion témoigne de l'incompréhension de ce qu'est la violence conjugale. On l'imagine un peu sur le mode de la scène de ménage. Et c'est vrai que plus ou moins tout le monde a vécu des scènes de ménage où les torts sont plus ou moins partagés. Alors, on pense la violence conjugale sur ce modèle-là, puis on dit oui, la femme y est aussi pour quelque chose. Je crois qu'on ne comprend pas vraiment le phénomène de la violence conjugale que nous ont bien décrite avant que nous fassions cette étude. études, les foyers pour femmes violentées avaient très bien compris de quoi il s'agissait, parce qu'ils avaient travaillé de façon très proche avec ces femmes-là. Et le problème, c'est vraiment que les femmes sont mises dans une situation de domination. C'est ça, le problème. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas penser sur le mode ordinaire des conflits, la violence conjugale. Il faut bien la penser comme une entreprise de mise en infériorité de l'autre, comme une entreprise pour avoir le dessus sur l'autre. C'est ça, la violence conjugale.
D'ailleurs, à ce propos, je pourrais rappeler qu'il existe à Genève une maison pour femmes battues et un groupe qui s'intitule Solidarité Femmes, qui accueille des femmes battues et qui... je vous donne le numéro de téléphone, c'est le... je ne l'ai pas. Est-ce que tu l'as, par hasard? Non, on va essayer de le trouver.
Voilà.
Alors, moi, j'aimerais bien revenir parce que... Ah oui, voilà, je l'ai trouvé. 797-10-10, je répète, à Genève. Donc, 797-10-10, la maison Solidarité Femmes, qui est un accueil pour les femmes battues. Alors, malheureusement, le temps passe. Même si on en a beaucoup, il passe toujours. Alors, j'aimerais en revenir à ce qui va se passer à Genève. Très concrètement, par rapport à cette campagne, il va y avoir des discussions, des films, du théâtre.
Oui, alors toutes ces choses-là auront lieu à Genève sur les 2 semaines de la campagne. Bon, elle dure 2 mois, mais on s'est concentré à Genève au niveau des événements entre le 12 et le 25 mai, donc ça commence lundi prochain. Et même samedi prochain avec un cycle de cinéma. Donc on remercie ici le CAC Voltaire, Monsieur Noguera, pour sa collaboration. Et nous avons pu élaborer avec lui un cycle de cinéma donc, où la place sera à 10 francs, exceptionnellement. C'est donc au CAC Voltaire, à la rue Général Dufour au Grutli. On a pu sélectionner 10 films qui ont tous le même point commun. Donc ce sont des films qui traitent de la violence de femmes en détresse dans leur relation de couple, de façon extrêmement diversifiée, à part des réalisateurs qui proviennent d'horizons multiples, qui ont été tournés à des époques très différentes les unes des autres. Ce sont tous des très très grands films du cinéma. Vous aurez l'occasion d'aller voir par exemple Un tramway nommé Désir avec Linnana Hamalon Brando, dont les muscles font tous leurs affaires dans ce grand classique du cinéma américain.
Il était jeune et beau, il n'était pas encore gros et gras comme aujourd'hui.
Ah ouais, ouais. Jeune, beau et fort, vous le verrez. Mm-hmm. Le Maître du Logis, un film qui sera diffusé, donc c'est un film muet qui sera diffusé avec un pianiste. Il y a Martha de Fassbinder, grand réalisateur. Je vous en citer quelques-uns. Il y a l'histoire de Tina Turner à travers le film What's Love Got to Do With It, qui a vécu l'enfer avec son mari Ike avant de réussir à s'en tirer. L'enfer tient justement un film de Chabrol avec la belle Emmanuelle Béart, une véritable descente aux enfers et un film très très fort qui illustre tout à fait le phénomène. Bon, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi Dolores Claiborne, un très très beau film où finalement la femme n'en peut plus, elle en arrive à se débarrasser de son mari d'une façon extrêmement rusée. Ensuite, vous aurez l'occasion de voir les femmes de théâtre dans leur spectacle Crie moins fort, les voisins vont entendre, à Carouge, à Chênebourg, à Mérin. Je vous donne les dates. Le 14 mai à Carouge, le 15 mai à Chênebourg, le 3 juin à Mérin. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours soit téléphoner à la mairie de ces communes, soit nous appeler au bureau de l'égalité. On vous enverra avec grand plaisir un très joli petit programme. Mais le plus important, c'est la soirée d'information qui aura lieu le 21 mai à Unimail à 20h avec des grands spécialistes de la violence conjugale. Bon, il y aura Lucienne Gilliot, vous venez d'entendre, bon sociologue. Il y aura, il faut vraiment venir l'écouter parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et qui aborde justement la question tellement médiatisée de la violence côté masculine. Donc Daniel Welser-Lang, qui a fondé le Centre pour hommes violents à Lyon, qui viendra parler ce soir-là. Et puis, vous aurez l'occasion de venir vous documenter dans différentes pharmacies, à l'hôpital... cantonale, dans les permanences, partout. Nos documents seront massivement diffusés. On espère qu'on ne sera pas submergé par la demande. Et au niveau de l'enseignement post-obligatoire, donc les collèges, les écoles de com, l'école de culture générale, il y a un travail qui va être fait. Les professeurs, c'est très important, ont la possibilité d'assister au cycle de cinéma dont je viens de vous parler gratuitement avec leurs élèves. On peut organiser des séances quand ils veulent, à la demande. Voilà, donc il va se passer pas mal de choses sur Genève. Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Ivana, je voudrais juste ajouter deux personnes que tu n'as pas mentionnées pour la soirée parmi les spécialistes. Il y a Véronique Ducret qui est co-auteure aussi de l'étude Domination et violence envers la femme dans le couple qui sera là. Et puis il y a Michel Gigandet-Bétard de Solidarité Femmes. Et je crois là il faut rendre hommage au fond à tout ce travail qui est fait sur le terrain par les femmes de Solidarité. Et je dirais que c'est elle au fond qui en savent le plus sur la violence parce qu'elle côtoie tous les jours des femmes victimes de violence. Et Michel Gigandet-Bétard sera là ce soir-là pour vous parler, pour répondre aux questions du public.
Puis, il y a juste une petite chose que je voulais ajouter. Le spectacle des femmes de théâtre, c'est un spectacle qui vaut vraiment la peine d'aller voir parce qu'elles vont lire et mettre en scène des témoignages de femmes victimes de violence. Donc, ça va apporter à votre soirée une dimension tout à fait différente par rapport à un exposé ou à un débat.
Alors, les petites femmes de théâtre, en l'occurrence, c'est hommes et femmes pour cette fois-ci. C'est Michel Amoudruge, Françoise Chevreau, que l'on connaît bien. Et cette fois-ci, avec Gilles Azria pour Crie moins fort, les voisins vont t'entendre. Le 14 mai à Carouge à 20h, le 15 mai à Chênebourg à 20h30 et le 3 juin à Mérin à 20h.
Et le 21 mai à Inimaï.
D'accord. Et puis, rappelons bien sûr aussi, Lucienne, que votre étude va paraître aux éditions Payot.
Elle
rappelons
est parue.
Le titre. Elle est parue.
Depuis hier.
Alors, le titre, C'est
Domination et violence envers la femme dans le couple. Et elle est sortie hier aux éditions Payot. Je pense qu'elle sera en librairie dans le courant de la semaine.
Alors merci à toutes les deux, Ivana et Lucienne.
Merci.
J'avais choisi aussi, c'est bien que tu l'aies mentionné tout à l'heure, Ivana, Tina Turner, pour finir cette émission, La femme que je suis censée être. Juste avant et sur la voix de Tina Turner, je vous redonne les numéros très importants qu'il vous faut retenir. Tout d'abord celui de Solidarité Femmes en Détresse. C'est à Genève, le 797 10 10. Le numéro du 6 mai au 6 juillet pour la campagne contre les violences conjugales faites aux femmes, c'est le 157 00 00. Et puis le bureau de l'égalité à Genève, c'est le 301 37 00. Remue ménage, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Dans quelques instants, la lune sera dans vos oreilles. C'est 18h30 jusqu'à 19h et à 19h, les coups de cœur de Marjolaine. Vous êtes dans Remue-Ménage. C'est la fin de Remue-Ménage, c'est le début de Radio Pleine Lune. C'est Radio Zone 93.8.
Did you know is my middle name? And did you know you're the flame? Could die from wanting you.